Chapitre 15. Jean le Brave, depuis la disparition de Concini, n'avait pas cherché à reconquérir sa liberté. Il était resté à côté de la jeune fille, sans faire un geste, sans dire une parole, lui souriant doucement. Il se doutait probablement de ce qui attendait Concini. Bertie, de son côté, le voyant si calme, si dédaigneusement indifférent, n'avait pas ajouté une parole, s'était tenu droite et ferme à son côté, se fiant entièrement à lui. Jehan ne s'était même pas donné la peine d'approcher de la grande porte. Il savait que Concini avait dû la fermer. Il avait attendu sans bouger, confiant dans l'exécution d'ordres qu'il avait peut-être donné lui-même. Seulement, maintenant qu'il était revenu au sens de la réalité, il trouvait que l'exécution de ses ordres se faisait un peu attendre. Il lui tardait de voir la jeune fille hors de ces lieux impurs. Lorsqu'il entendit tirer les verrous, avant même que la porte s'ouvrit, sûr de ce qui allait arriver, il se tourna vers Bertille, enleva son manteau et l'enveloppa toute avec ses gestes tendres, doux, attentifs et pourtant vifs et légers, des mères emmaillotant les tout-petits, expliquant doucement « Les nuits sont encore fraîches ». Et elle le laissait faire, souriant avec le même confiant abandon que ses petits anges aux mains maternelles. Lorsque les trois pénétrèrent dans la chambre, elle était déjà enveloppée des pieds à la tête. Gringaille ayant terminé son explication, Jehan le remercia d'un signe de tête accompagné d'un sourire. Il leur faisait bonne mesure, paraît-il, car les trois se mirent à glousser et à se bourrer de coups de coude, et il dit « Partons ». Avant de sortir, cependant, il ne put résister à la tentation de jeter un coup d'œil sur Concini, immobile sur le lit. Et Bertille, qui surprit ce coup d'œil au passage, sentit un frisson la frôler à la nuque. Jehan avait hâte d'arracher Bertille de ce lieu de débauche. Il lui semblait que l'air même qu'on y respirait était susceptible de souiller l'immaculée pureté de la jeune fille. Sans s'occuper de ses compagnons, il l'entraîna et ne s'arrêta que lorsqu'il fut dans la rue, sous la voûte d'un ciel resplendissant d'étoiles. Pendant ce temps, Gringaille, Escargasse et Carcagne reprenaient leurs dagues et leurs épées et ne quittaient chaque pièce qu'après l'avoir fermée à double tour et poussé tous les verrous. Lorsqu'ils apparurent sur le seuil de la porte extérieure, Jehan demanda « Les deux laquais, les filles de service, soigneusement ficelées et enfermées comme le Concini. Soyez sans crainte, ils ne s'échapperont pas. Bien, ferme la porte et donne-moi la clé. Merci. » Alors il se tourna vers la jeune fille, et de cette voix extraordinairement douce qu'il trouvait pour elle et qui contrastait si violemment avec son accent rude habituel, « Vous ne pouvez pas retourner chez vous, vous n'y seriez pas en sûreté. » Son gracieux visage eut une expression d'effroi. De la tête, elle dit vivement « Non !»« Où désirez-vous que j'aie l'honneur de vous conduire ?» Il pensait qu'elle allait répondre « Au Louvre ». Il n'en fut pas ainsi. « Je ne sais pas, » dit-elle naïvement, « je ne connais personne à qui me confier dans cette grande ville. » S'il fut étonné de la réponse, il n'en laissa rien paraître. Il n'était pas besoin d'être doué d'une grande perspicacité pour deviner que sa naissance cachait un mystère. Si elle ne demandait pas à être conduite près de son père, c'est apparemment que la chose était impossible. Pour quelle raison? Il n'avait pas à le rechercher. C'était ainsi, et voilà tout. Ce qu'il voyait de bien clair dans cette aventure, c'est que cette fille de roi n'avait, pour le moment du moins, d'autres défenseurs que lui, pauvre diable d'aventurier, d'autres appuis que celui qu'il voudrait bien lui accorder. Il se sentit transporté d'orgueil, une joie puissante le souleva, et en même temps, un inexprimable attendrissement l'envahit. Il demeura un moment à réfléchir, cherchant où il pourrait bien la conduire. Enfin, il crut avoir trouvé. Sa voix, si tendre, si douce, se fit plus douce et plus tendre, son attitude, si profondément respectueuse, se fit plus respectueuse encore. Et ce fut avec une sorte de timidité charmante qu'il dit « Si vous le voulez bien, je vous conduirai auprès d'une personne qui, elle, je l'espère, vous trouvera un gîte sûr. Mais je suis forcé de vous faire passer par une hôtellerie. Excusez-moi, la personne sur qui je compte demeure là. » Ses grands yeux lumineux fixés sur les siens, elle exprima son entière confiance par ce seul mot « Allons !» Il se courba profondément. D'un geste, il appela près de lui les trois compagnons qui se tenaient à l'écart et, à voix basse, il donna ses ordres. « Vous deux, Escargas et Gringaille, marchez devant. Par le quai de Gloriette, le pont Saint-Michel et le pont au Change, nous allons rue Saint-Denis à l'auberge du Grand Passepartout. Toi, Carcagne, derrière. Si quelqu'un approche, tuez d'abord, on s'expliquera ensuite. Attendez, avez-vous de l'argent sur vous ?» D'un même geste, les trois, après s'être fouillés, tendirent leurs mains pleines de pièces d'or. Jehan rafla tout ce que contenait la main la plus proche de lui. Et comme les deux autres pattes se tendaient vers lui avec insistance, « Non, fit-il doucement, j'ai plus qu'il ne me faut pour le moment. Allez maintenant !» Le favorisé, c'est-à-dire celui qui avait donné tout ce qu'il avait sur lui, s'éloigna en se dandinant, en faisant entendre en sourdine un bruit à peu près pareil à celui d'une poulie rouillée, bruit qui avait la prétention d'être un rire. Les deux autres réempochèrent leurs pistoles avec un soupir et s'éloignèrent tristement en tournant le dos. C'étaient ces mêmes hommes qui, quelques instants plus tôt, s'étaient acharnés à dépouiller le riche et puissant seigneur Concini. Lecteur, ne soyez pas trop sévère pour eux. Jehan se tourna vers la jeune fille et se courbant, « Je suis à vos ordres, mademoiselle, » dit-il. Jusqu'à la rue Saint-Denis, absorbés par leurs pensées, ils firent le trajet côte à côte sans échanger une parole. Il était près de 3 heures du matin lorsque Jehan frappa d'une manière convenue à la porte de l'auberge. Au bout de quelques minutes, une fenêtre s'entr'ouvrit. Une tête de femme apparut et s'informa. « Que voulez-vous ? » « Voir monsieur le chevalier, affaire urgente. »« Je descends. » Quelques instants plus tard, une jeune femme, à moitié endormie encore, les introduisit d'un air plutôt maussade dans un petit cabinet dont la porte vitrée donnait sur la grande salle. Jehan prit sans compter une poignée de pistoles et la mit dans la main de la servante qui retrouva incontinent son sourire le plus empressé et plongea dans sa plus gracieuse révérence. « Ma fille, dit-il, mettez-moi un fagot dans cette cheminée et faites-nous une bonne flambée. » Et pendant que la servante, qui semblait avoir des ailes, s'activait, il expliquait doucement à Bertille. « Je vais vous quitter quelques minutes seulement. Reposez-vous un peu et ne craignez rien. Ces trois-là veilleront sur vous pendant ma courte absence. » « Je ne crains plus rien, » dit-elle avec calme. Jehan, après s'être incliné, passa dans la grande salle avec Escargas, Cargagne et Gringaille. « Vous autres, dit-il, ne bougez pas d'ici et que nul, hormis la fille de service que vous avez vue, n'approche de cette porte. C'est compris ?» Trois grognements furent la réponse brève et éloquente qu'ils donnèrent. Mais ils avaient des faces longues, piteuses. Ils roulaient des yeux tout blancs, poussaient des soupirs qui ressemblaient assez à des beuglements de jeunes veaux réclamant le tétin de la jeunisse maternelle. Et ils tiraient des langues longues, longues, crachotaient péniblement, trépignaient comme si des milliers de fourmis s'étaient acharnées à leur piquer les mollets. Cette mimique désordonnée avait, paraît-il, sa signification, que Jehan comprit du premier coup, car il fronça le sourcil. « Pauvre diable, pensa-t-il, on ne peut cependant pas leur demander l'impossible. » Et tout haut, « Eh bien, soit, ivrogne, sac à vin !» Mais je ne vous permets qu'une bouteille à chacun. » Les trognes s'épanouirent. Ils étendirent les mains en un geste solennel, comme pour dire « C'est juré !» Et surtout, ajouta le jeune homme, « Veillez à vos paroles, hein ? C'est que je vous connais. Vous n'êtes pas qu'ivrognes fiefés, vous êtes encore débauchés et licencieux. N'oubliez pas que de ce cabinet, on peut vous entendre. Si j'apprends que l'un de vous s'est permis la moindre inconvenance, je l'étripe. » Et sans s'occuper de leurs protestations, s'adressant à la servante, « Veuillez me conduire, mon enfant, » dit-il poliment. À ce moment, une lumière parut au haut de l'escalier intérieur et une voix qu'il reconnut aussitôt prononça. « Montez, montez, je vous attends. » « Ma fille, reprit Jehan, faites-moi le plaisir d'entrer dans ce cabinet et d'y tenir compagnie à la noble demoiselle qui s'y trouve jusqu'à mon retour. » Et il gravit les marches 4 à 4 et pénétra dans la chambre du chevalier de Pardaillan qui le précédait, sa lampe à la main. Le chevalier, sommairement vêtu, approcha un fauteuil, prit une bouteille poudreuse et deux verres et les remplit à ras-bord. et en même temps il expliquait. « J'ai entendu l'appel particulier que je vous avais indiqué. Et comme vous êtes le seul à le connaître jusqu'à maintenant, j'ai compris que c'était vous qui frappiez et je me suis levé aussitôt, pensant qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Pendant que j'achève de me vêtir, racontez-moi ce qui vous amène et en quoi je puis vous être utile. » Ayant dit, Pardaillan choqua son verre contre celui de son hôte, le vida d'un trait comme l'exigeait la politesse, et se mit paisiblement à sa toilette, sans hâte apparente, mais avec une célérité remarquable. Cependant, Jehan ne parlait pas. La simplicité de ses manières, la cordialité de cet accueil, l'empressement à se mettre à sa disposition, la promptitude insouciante à s'équiper, avant même qu'il eût dit de quoi il s'agissait, tout cela l'étonnait et le bouleversait d'émotion. Pardaillan, qui, tout en s'habillant, ne le perdait pas de vue, remarqua cette émotion et doucement « Voyons, dit-il, est-ce si difficile, si délicat, ce que vous avez à dire ?» Jehan s'approcha et lui prit la main qu'il garda entre les deux siennes et, d'une voix qui tremblait « Quand je pense que j'ai été assez misérable pour vous injurier, quand je pense que ce poing a osé se lever menaçant sur vous, je mériterais qu'on m'arrachât cette langue maudite, qu'on tranchât ce poignet scélérat. » Ah, bah ! S'exclama Pardaillan en prenant son air le plus ébahi. Et c'est pour me dire cela que vous venez me tirer du lit à 3 heures du matin ? Corbleu, mon jeune ami, savez-vous bien que je suis homme à ne vous pardonner jamais un crime pareil ? Car c'est un crime que d'empêcher de dormir quelqu'un qui en rage de sommeil. Jehan ne put s'empêcher de rire du ton sur lequel elles avaient été prononcées, plus que des paroles elles-mêmes. « Allons, dit Pardaillan sérieusement, videz votre sac et me dites en quoi je puis être utile à celle que vous aimez. »« Comment vous savez ? » s'exclama Jehan stupéfait. Pardaillan haussa les épaules. « Croyez-vous qu'il ait besoin d'une dose de pénétration extraordinaire pour le deviner ? » fit-il de son air narquois. « Êtes-vous homme à venir me réveiller au milieu de la nuit pour votre service personnel ? Non, n'est-ce pas ? Alors ? C'est encore une leçon que vous me donnez là. Ah, monsieur, si j'avais eu un maître tel que vous ! Mais vous avez raison, je perds un temps précieux. » Et le jeune homme fit un récit bref de la manière dont il avait délivré celle qu'il aimait et de l'embarras dans lequel il se trouvait, ajoutant pour terminer, avec un accent de mélancolie poignante, « Je ne connais que truands et ribaudes. Que voulez-vous ? Je ne sais si j'y suis né, mais en tout cas j'ai grandi et vécu dans ce milieu, et mon propre père lui-même. Bref, je ne pouvais sans rougir conduire cette enfant si pure chez les personnes de ma connaissance. Encore moins pouvais-je la conduire chez moi. Alors je me suis souvenu des offres obligeantes que vous me fîtes au moment où je vous quittais à la porte de cette hôtellerie. J'ai pensé qu'un homme tel que vous, monsieur, trouverait facilement, dans ses hautes relations, une retraite honorable où celle que j'aime, en attendant qu'elle ait pris une décision, serait à l'abri de toute tentative criminelle, où nul ne pourrait l'approcher, pas plus moi que d'autres. » En sorte que, fit Pardaillan qui avait écouté attentivement, « en sorte que vous vous interdisez volontairement de voir celle que vous aimez ?»« Oui, monsieur, c'est pénible, mais il me semble qu'il vaut mieux qu'il en soit ainsi. À moins qu'elle n'ait besoin de moi, à moins qu'elle ne me fasse appeler. » Et avec une inquiétude qui trahissait l'extraordinaire confiance que lui inspirait cet homme qu'il ne connaissait pas la veille, et aussi l'importance qu'il attachait à ses avis, « Ne pensez-vous pas comme moi, monsieur ?»« Si, mon enfant, dit Pardaillan avec douceur, je pense tout à fait comme vous. » Et en lui-même il ajoutait, « Allons, je l'avais bien jugé, c'est une belle nature. » Un roué n'eût pas manqué de mettre à profit une aussi favorable occasion. Lui n'y a même pas pensé. Il saignit son épée et dit simplement « Venez !» Dès qu'elle les vit entrer dans le cabinet, Berthille se leva. Elle reconnut immédiatement en Pardaillan ce cavalier aperçu sur son perron en une circonstance inoubliable. C'était un inconnu dont elle ignorait même le nom. Le roi l'avait bien nommé à diverses reprises devant elle, mais elle était si émue, si agitée, qu'elle n'y avait pas pris garde. Lorsqu'elle le reconnut, ses yeux brillèrent de plaisir. Elle fit vivement 2 pas à sa rencontre et spontanément, comme poussée par une force irrésistible, elle s'inclina devant lui et lui tendit chastement le front dans un geste adorable en sa grâce juvénile. Et elle murmura dans un souffle harmonieux, « Du fond du cœur, monsieur, soyez remercié. Soyez béni, vous qui, suivant si noblement les traces des paladins de l'antique chevalerie, trop oubliés, hélas, allez, mettant au service du faible contre le fort, l'appui de votre vaillante épée. Dans sa longue carrière, Pardaillan avait reçu quelques compliments tombés de la bouche de personnages autrement considérables et plus compétents que cette toute jeune fille. Et il n'en avait pas été autrement touché. Mais cet hommage naïf et le geste filial qui l'accompagnait l'émurent doucement. Et pour cacher cette émotion, il se pencha, effleura du bout des lèvres les fins cheveux d'or, et avec un sourire narquois, il gouailla « Peste, ma chère enfant, comme vous y allez ! Si pour être proclamé digne de l'antique chevalerie, il suffisait d'accorder l'hospitalité à une jeune fille momentanément sans abri, le royaume de France serait uniquement composé de paladins. Il n'est personne, je le crois du moins, qui refuserait une chose si simple. » Elle secoua doucement la tête en manière de protestation et gravement « Tout le monde n'aurait pas cette générosité, j'en suis sûre. Mais puisque vous me l'affirmez, je veux bien l'admettre. Cependant, monsieur, quelle que soit votre modestie, oseriez-vous soutenir aussi que tout le monde, comme vous l'avez fait, oserait résister aux ordres du roi, avec cet air de souveraine hauteur que vous aviez, en sorte que le roi me paraissait bien petit près de vous. Tout le monde, comme vous l'avez fait encore, risquerait-il froidement l'échafaud en se mettant délibérément en état de rébellion armée? Et pourquoi? Pour prêter main forte à un inconnu? Simplement parce qu'il vous a paru que cet inconnu avait le bon droit pour lui. Vous le voyez, monsieur, vous n'osez pas soutenir cela. Moi, monsieur, je sens que, seul au monde, vous êtes capable de cette surhumaine magnanimité. Et c'est pourquoi, je vous le dis, ma reconnaissance immuable, mon admiration sans borne, mon respect attendri vont à vous, plus pour ce que vous avez fait là que pour ce que vous consentez à faire pour la pauvre fille que je suis. » Tandis qu'elle parlait doucement, de cette voix suave qui ressemblait à un chant d'oiseau, Jehan était en extase et les trois baies d'admiration. Jamais il n'avait entendu voix si pénétrante. Peut-être n'avait-il pas très bien compris ce qu'elle disait. Dame, elle exprimait des sentiments qui leur étaient totalement inconnus. Mais le charme de la voix, joint à la beauté quasi irréelle de la jeune fille, leur faisait de confiance trouver admirable tout ce qu'elle disait. Quant à Pardaillan, malgré l'âge, il était demeuré ce qu'il avait été toute sa vie, un homme de sentiment. Il ne pouvait pas ne pas être touché par les louanges qui avaient, à défaut d'autres, le mérite de la sincérité absolue. Il ne pouvait pas ne pas subir le charme ensorceleur qui émanait de toute la personne de Bertille. Mais il était demeuré aussi l'incorrigible gamin, toujours prêt à se moquer de lui-même. C'est ce qu'il fait qu'il prit son air figue et raisin et qu'il répondit, sans qu'il fût possible de savoir s'il plaisantait ou parlait sérieusement. « Soit, me voilà une fois de plus, sacré paladin, preux, modèle de chevalerie. N'en parlons plus, venons plutôt à notre affaire. » Et s'adressant particulièrement à Jehan, il continua. « Je vais, si vous le voulez bien, partir seul devant. J'ai de bonnes jambes, j'arriverai un bon quart d'heure avant vous. » Ce qui me permettra de réveiller mes amis et de leur expliquer ce que j'attends d'eux. De cette manière, cet enfant, qui doit tomber de fatigue, n'aura pas à attendre pour prendre le repos dont elle a besoin. « Quel homme vous êtes! Vous pensez à tout !» fit Jehan attendri. Pendant ce temps, reprit Pardaillan en haussant les épaules, « vous vous acheminerez doucement vers la rue du Four. Non loin de l'ancien hôtel de la Reine, qu'on appelle maintenant l'hôtel de Soissons, se trouve la maison de Monsieur le Duc d'Andilly, où nous allons. Elle est facilement reconnaissable en ce que vous verrez, un peu partout, sculptées dans la pierre ou ciselées dans le bronze, des têtes de taureaux. « Je connais cette maison, » dit Jehan. « On l'appelle la maison des taureaux et aussi le logis de l'Espagnol. » « C'est cela même. À tout à l'heure. Bonjour, mes braves. » Pardaillan s'inclina avec une grâce altière devant la jeune fille, eut un geste amical à l'adresse de Jehan, un léger signe de tête pour les trois braves, glorieux et touchés de cette politesse à laquelle ils n'étaient pas accoutumés, et s'éloigna d'un pas rapide. Jehan eut pu se dispenser d'emmener ses hommes avec lui. Dieu merci, il était de taille à défendre seul celle qu'il aimait. mais par une délicatesse dont elle le remercia d'un sourire, il ne voulut pas paraître recherché en tête-à-tête avec elle. En conséquence, il commanda « En route, vous savez où nous allons ?»